Evening Business, l'invité.
Pour parler des retraites avec François Omril, le président de la CFE-CGC qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Omril.
Bonsoir.
Installez-vous.
Bonsoir.
Vous en prie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce qu'il y a secrètement, pour vous, l'idée qu'après la même forte mobilisation d'hier, il y a encore moyen de faire capituler le gouvernement sur les 64 ans, franchement. Je sais que vous n'allez pas me dire le contraire, mais peut-être depuis hier, cette opportunité s'est rapprochée.
Oui, non, mais j'ai bien compris votre question. Moi, je pense effectivement qu'il y a moyen que le gouvernement revienne à la raison. Mais tout dépend aujourd'hui de la décision d'Emmanuel Macron. Voilà, il ne faut pas tourner autour du pot. Hein. Aujourd'hui, c'est à l'Élysée que ça va se décider, c'est le président lui-même qui va finalement ouvrir ou non les portes sur cette question-là. Et on voit bien, le gouvernement n'est pas dans une position facile. Hein. Il se fissure un peu, il y a des déclarations, celle de Franck Riester, qui nous donne un peu raison sur une petite partie du dossier, mais une partie importante. La Première Ministre qui est obligée un peu de le redresser. Bon, tout ça montre bien que les choses sont un peu désordonnées aujourd'hui sur la position gouvernementale. Il y a des députés qui doutent, c'est une très bonne chose. Moi, je fais mon travail et je les fais douter. Pour certains, en tout cas, j'estime que je suis dans mon rôle.
Est-ce qu'il y a des alternatives, Audrey ?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que, pour être très clair, est-ce que vous pensez qu'en augmentant un peu les cotisations, on peut aller chercher justement ces milliards qui manquent, quitte à augmenter un peu le coût du travail ?
Moi, c'est pas ma vision des choses.
Certains syndicats voient ça comme ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Quelle est l'alternative,
non,
finalement ?
Moi, je vois pas les choses comme ça. Dans ce dossier, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est la première version du gouvernement. C'est la version de l'élection présidentielle avant l'élection législative. Et cette version-là, c'est la vraie version. Moi, c'est mon sentiment.
Alors, c'est-à-dire, vous me parlez de la réforme systémique.
Non, en fait, le gouvernement dit j'ai besoin d'argent. Voilà, nous sommes à l'État, nous sommes très endettés, etc. Nous avons une forte pression des marchés, nous avons besoin de financer des politiques publiques, nous n'avons plus les budgets nécessaires. Pour pouvoir mobiliser des budgets supplémentaires, il faut que les gens travaillent plus. Nous n'avons pas trouvé d'autres moyens. Je pense que ça, c'est la vraie raison. Or, après, il s'est passé quand même un événement pas tout à fait neutre dans cette affaire, c'est qu'il y a eu les élections législatives, et du coup, le gouvernement n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée. Donc, il va falloir composer. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez bien observé, tout d'un coup, la version va changer. On va, d'une certaine façon, un peu inventer cette histoire du déficit, de la catastrophe, etc., qui n'était pas dans le dossier au début. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça va avoir un impact plus fort sur la population et qu'on va ramener l'adhésion de la population sur ce sujet-là. Ça marche pas, parce que les indicateurs techniques, nous on les connaît, on est sur du prévisionnel sur lequel il y a tout un tas d'indicateurs qui sont discutables, voire contestables, et de toute façon, il n'y a pas d'urgence. En matière de retraite par répartition, il n'y a jamais d'urgence. Il faut piloter à distance, il faut avoir les idées claires, il faut prendre ses responsabilités.
La question d'Audrey est aussi la même, mais c'est notre question. C'est quoi l'alternative au passage à 64 ans, finalement ? Si c'est pas c'est pas l'augmentation des cotisations, c'est quoi pour vous ?
C'est pour ça que j'y reviens, si vous voulez. Cette volonté de passer à 64 ans, c'est parce que l'État ne veut plus faire face à son engagement de payer le complément de retraite pour les fonctionnaires. L'idée, c'est ça. Et ça a été dit, c'est très clair, en fait. Et donc, il y a aussi le fait que l'État est très engagé dans les compensations de cotisations dont il exonère les entreprises. Tout ça, c'est les mesures fiscales et socio-fiscales. C'est plus de 200 milliards. Et donc, au même moment, le gouvernement, finalement, nous dit, eh bien, j'ai plus d'argent, mais en même temps, il exonère une fois de plus 8 milliards d'euros de cotisation sur la valeur ajoutée. Et c'est le paradoxe de discours qui n'est pas supportable. Finalement, d'un côté, toujours plus d'argent pour les entreprises, sans discernement et sans condition. Je veux rappeler que nous ne sommes pas contre le fait qu'on aide les entreprises et l'économie. Au contraire, on est plutôt favorable. Mais simplement, il faut que ce soit fait de façon coordonnée.
Non, mais d'accord, mais donc on comprend bien ce que le gouvernement dit, mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?
Le gouvernement, il a besoin de mobiliser des masses financières supplémentaires pour financer ses politiques publiques.
Oui.
Il s'en prive en multipliant les subventions aux entreprises qui ne sont pas efficaces sur le plan économique. Le gouvernement n'a qu'à récupérer une partie de ce qu'il donne sans discernement et sans condition aux entreprises qui, pour la plupart, les transforment en dividendes immédiatement, voire pire, en rachat d'actions.
Quand vous dites sans condition, si c'est pour les conditionner à des offres à un tel taux d'embauche ou d'emploi de salariés, ça marche pas comme ça. On a déjà eu ce débat pendant le CICE, vous savez très bien. Vous pouvez pas conditionner les aides à la création d'emplois chiffrés, pour le coup.
Je suis absolument pas d'accord avec vous. Le CICE, on donne l'argent Et on dit aux entreprises, soyez gentils, faites ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire aux entreprises, ayez des résultats. Sinon, les subventions, eh bien, on vous les retirera. C'est pas la conditionnalité, c'est ça. Quand l'État se prive de moyens budgétaires pour agir, qu'il les donne aux entreprises, eh bien, il faut qu'il y ait des conditions à l'emploi utile de ces sommes-là. C'est ça que nous on demande. Et on pense que c'est pas si compliqué que ça. Et on s'interroge quand même de savoir pourquoi, au moment même où le gouvernement va demander aux Français de travailler 2 ans de plus, eh bien, il exonère les entreprises de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Donc,
on parle bien de la valeur.
Si on comprend bien, aucune ligne commune possible, même si le gouvernement revient vers vous avec, sur le sujet, par exemple, des seniors, de la prise en compte de la pénibilité, sur le sujet des inégalités femmes-hommes, à partir du moment où il ne touche pas au curseur de l'âge légal, zéro discussion possible.
Alors, j'ai la réponse là-dessus. Le gouvernement aujourd'hui, la mobilisation, le mouvement social, c'est pour le retrait à 64 ans. De la mesure à 64 ans. Après, sur la question de l'emploi des seniors, moi je vous l'affirme ici, rien ne sera fait. Le dossier n'évoluera pas dès l'instant qu'on ne contraindra pas les entreprises, à travers un certain nombre de moyens.
Donc,
mais
vous voulez
disponibles.
Des lois coercitives pour les entreprises et en plus de ça, qu'on les fasse participer
financièrement. Mais on n'a pas besoin d'être coercitif. C'est très simple. Il faut faire, pour les entreprises, il faut avoir la même exigence vis-à-vis des entreprises que celles qu'on a vis-à-vis des chômeurs indemnisés. Ils n'ont pas les résultats, ils ratent un rendez-vous avec leurs conseillers, ils n'ont plus la subvention. Enfin, je veux dire, je ne demande pas la lune quand même.
Mais qu'est-ce que vous demandez aux entreprises d'instaurer des quotas?
Alors juste, non, mais excusez-moi.
Attends, vous allez demander quoi? Des quotas de seniors?
C'est faux, quand on rate un rendez-vous, si on le justifie, on peut même le rater deux fois.
Écoutez, moi,
attendez, vous avez demandé des quotas de seniors.
Je peux revenir sur
ces débats-là. Est-ce que vous avez demandé des quotas de seniors aux entreprises?
Je veux dire, on peut rentrer dans ce débat-là. Nous, on pense que ce dossier-là, il faut le travailler en profondeur, même si il apparaît complexe. Il faut partir d'une situation. La situation aujourd'hui, c'est que la France, c'est ce pays qui se distingue par rapport aux pays de l'OCDE en général, par le fait que les entreprises, principalement les grandes entreprises, il faut bien le dire, se séparent, ont ce tropisme très important de se séparer de leurs salariés à partir de 58 ans. 59 ans,
problème, hein.
Même
oui.
En ce moment, il y a des plans dans les grandes entreprises. Donc là-dessus, on peut, nous on le croit sincèrement, on peut travailler de façon objective vis-à-vis des entreprises, avec des indicateurs et surtout avec des moyens pour avancer. Ces moyens, évidemment, ils doivent être basés sur la négociation et sur la production d'accords qui engagent les parties prenantes dans l'entreprise. C'est l'évidence. Quand on parle de moyens coercitifs, je suis toujours un petit peu gêné, parce que je crois qu'on a à notre disposition dans les entreprises, nous, représentant les salariés et vis-à-vis des employeurs, tout un tas de moyens disponibles qui, passant par la négociation, passant aussi par l'intervention de l'État dans un cadre, justement, qui contraint l'issue de la négociation, on peut avancer pour ce sujet. Nous, on a fait 23 propositions sur le sujet et qui permettent, dans notre analyse, d'aller sur 100 000 emplois supplémentaires pour les gens en fin de carrière.
Alors justement,
ça génère des
alors, en parlant d'emplois supplémentaires, notre ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui dit que ces nouvelles règles, elles vont justement générer 100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires en un an.
Non, moi je ne le crois pas du tout. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Moi j'appelle ça l'effet de traîne. Vous décalez la limite. Je pense qu'il parlait du décalage à 64 ans.
On est sur la réforme de l'assurance chômage.
Sur l'assurance chômage, c'est différent.
Il nous reste 2 minutes pour en parler.
Moi, je ne le crois pas du tout.
Au milieu de tout ça, les règles sont entrées en vigueur aujourd'hui, les nouvelles règles.
Je le sais, mais on a beaucoup contesté cette réforme de l'assurance chômage.
Ce sont les deux faces d'une même pièce.
Tout à fait.
Période verte, période rouge.
La réforme de l'assurance chômage postule que le chômeur indemnisé est un fumiste en puissance et qu'il ne recherche pas activement du travail parce qu'il est indemnisé. Or, ça est contredit par tous les éléments d'expertise, toutes les études qui ont été faites montrent que la morale, il est inférieur à 10% en France. Donc moi, je n'arrive toujours pas à comprendre quelle peut être cette motivation populiste, finalement.
Enfin, vous savez bien que c'est
quand on
environ...
est indemnisé, on n'est pas motivé à retrouver un emploi.
Oui, mais c'est environ 6 mois avant la fin des droits qu'on a une accélération sur la recherche d'emploi.
Oui, vous savez, c'est comme quand on a arraché 6 pattes à une puce, quand on lui dit saute, elle n'arrive plus à sauter.
Elle devient sourde.
Sourde. Oui. C'est exactement le même raisonnement. Évidemment, quand les gens ils arrivent à la fin de l'indemnisation, formation et qu'ils ont une certaine qualification, qui cherchent un emploi d'un même niveau de rémunération, eh bien, c'est pas si facile que ça.
Est-ce que le taux de chômage...
Et donc, ils vont arriver à la fin de l'indemnisation, ben, ils prennent n'importe quel boulot. Mais ça, c'est pas sain pour l'emploi non plus. Parce que quand on a un emploi qualifié et que quand on est à la panique et qu'on reprend n'importe quel emploi, on le prend à quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Et là encore, il y a des études sur le sujet. On sait que c'est très nocif au principe objectif pyramidal dans le retour à l'emploi.
Certains disent, pour finir, hein, le vrai défaut de cette réforme, c'est le manque d'accompagnement et de suivi exigeant pour les chômeurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous dites là aussi
Mais là, je suis absolument d'accord, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chômeur est un peu livré dans la nature.
Mais accompagnement et suivi exigeant. Pour ne pas dire vraiment... Est-ce qu'on n'est pas sans arrêt un petit peu trop à demander aux chômeurs s'ils recherchent un emploi, mais quitte à le radier de manière assez facile, assez rapide.
De toute façon, c'est la course à la radiation, on le sait très bien.
C'est la course à la radiation, donc on est d'accord.
De toute façon, le gouvernement ne communique, excusez-moi, j'ai mal compris votre question, on ne communique que sur les chômeurs indemnisés, mais il y a quand même aujourd'hui 5 millions de personnes qui sont sans emploi. Et donc, effectivement, on nous dit qu'on va vers le plein emploi.
Beaucoup de chômeurs qui ne sont pas indemnisés.
Quand on aura radié tout le monde et qu'il n'y aura plus d'indemnisation, on sera dans le plein emploi, mais il y aura toujours 5 millions de chômeurs. Donc, on n'aura pas réglé le problème.
Bien, donc ça nous fera encore bien des motifs de défiler pour vous la semaine prochaine, les 7 et 11. Elles vont les dates du 7 et 11.
Je ne vous ai pas vu dans la manif, mais peut-être que j'ai mal regardé.
Ah non, on est en plateau.
Oui, mais nous,
vous y serez peut-être. Mais vous en parlez, c'est très bien. Vous avez raison.
Nous en ferons étape, bien sûr, la semaine prochaine. Merci beaucoup, François Omri, président de la CFE-CGC avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, à très vite. Et bon courage pour la semaine prochaine.